Le nouveau mois de Marie. 14e jour. Visitation de la très sainte Vierge. Heureuse la maison de Zacharie et d'Élisabeth, qui posséda pendant 3 mois celui qui est la source de toutes les grâces, et celle qui en est le canal et la distributrice. C'est par sa sainte mère que le Verbe incarné voulut accorder la première de ses faveurs dans l'ordre spirituel. La sanctification de son précurseur, comme 30 ans après, le premier miracle de sa vie publique, le changement de l'eau en vin, fut encore accordé à la médiation de Marie. Si les premiers sons de la voix de Marie opérèrent ce prodige sur l'âme de Jean-Baptiste, que durent produire durant 3 mois ces pieux entretiens, ces admirables exemples, sur les vertueux époux qui en étaient tous les jours témoins? Comme elle répandait autour d'elle la bonne odeur de Jésus-Christ. Zacharie et Élisabeth ne pouvaient se lasser d'admirer les vertus de cette Vierge immaculée, la douceur de ses paroles, la sérénité de son visage, la modestie de ses regards, son humilité profonde, sa charité, aussi active que tendre. Enfin, son union continuelle avec Dieu. Ah, pouvait-il se dire après son départ, comme les disciples d'Emmaüs, n'est-il pas vrai que nos cœurs étaient tout enflammés quand nous avions le bonheur de la voir ou de l'entendre? Scandale, méditation. Quelle est forte, mon cher Théotime, l'impression de l'exemple, le plus grand bien que nous puissions faire au prochain et de contribuer à son salut. Et le moyen le plus efficace d'être utile à son âme, c'est le bon exemple. Malheur donc à celui qui, au lieu d'édifier ses frères, devient pour eux une pierre de scandale. Oui, malheur. Vae homini ii. 1 Luc, chapitre 22, verset 22. C'est la terrible menace de notre Seigneur. Il vaudrait mieux, pour un tel homme, pesez bien ses paroles, qu'il ne fût jamais né, ou bien qu'on lui eût attaché une meule de moulin au cou et qu'on l'eût précipité dans la mer. Le scandale est un grand péché. Réfléchissez sur ce qu'une âme a coûté à Jésus-Christ. Il est venu du ciel en terre pour la racheter. Elle lui a coûté l'ignominie, le supplice de la croix, elle lui a coûté tout son sang. Oui, voilà le prix d'une âme. Anima tanti vale. À cette âme, vous l'arrachez, pour ainsi dire, de son sein. Vous vous faites un plaisir cruel de navrer son cœur d'amertume. Ses plaisanteries, ses médisances, ses discours, ses conseils pernicieux, ses mauvais exemples, que dis-je, ce geste, ce signe, ce regard peut-être, a donné la mort à des âmes innocentes. Regardez vos mains, elles sont teintées de sang. Sanguinem eju de manu tua requiram. Ézéchiel chapitre 3 verset 18. Le scandale est un abîme de péché. Ne croyez pas, mon cher Théotime, que le scandale ne soit qu'un péché actuel et personnel. C'est une espèce de péché originel. Il passe de vous à vos amis et d'eux à d'autres amis. Il passe des pères aux enfants. Et qui sait où le mal s'arrêtera? Si le péché dont vous êtes cause est à votre frère que le scandale a perdu, il est aussi à vous. Et tous les péchés qu'il a commis et commettra par la suite de ce premier, s'ils sont à lui, ils sont aussi à vous. Vous avez été pour lui un maître d'iniquité. Ensuite, lui-même, à son tour, l'est devenu pour les autres. Comptez, mon cher Théotime, tous les péchés de ceux-ci. Ils sont encore à vous, parce que leur origine remonte jusqu'à votre scandale. Comme à son principe. C'est ainsi que votre péché se perpétue, qu'il passe d'une âme dans 1000 autres, lesquels, le transmettent par une déplorable succession. Et à l'heure de votre mort, vous serez saisi d'effroi au souvenir de vos scandales. Vous croirez voir autour de votre couche funèbre des mères éplorées qui vous demanderont leurs enfants qu'elles avaient élevés dans l'innocence. Une foule d'amis que vous aurez entraînés dans le vice et qui déchargeront sur vous le poids de leur iniquité. Vous verrez sortir des enfers des âmes que vos mauvais exemples y auront précipitées et qui crieront contre vous. Le scandale est le péché des démons. Par lui, vous faites la guerre à Dieu lui-même. Vous devenez le coopérateur de Lucifer pour ravir au Seigneur sa gloire autant qu'il vous est possible. Pour profaner ses sanctuaires, je veux dire les âmes, pour diminuer en quelque sorte la splendeur et l'éclat du royaume des cieux, en éloignant de cette sainte demeure toutes les bénédictions, tous les cantiques de tant de chrétiens qui, sans vous, eussent persévéré. Enfin, pour peupler l'empire de perdition et multiplier dans l'enfer ceux qui le blasphèment et le maudissent, chrétien, entends-tu la voix de ton Dieu au fond de ton cœur? Écoute ses plaintes. Mon fils, épargne cette âme, elle est faite à mon image. Je l'ai nourrie de mon propre corps, elle est confiée à la garde de mes anges. N'importe, répond le chrétien scandaleux, je veux qu'elle serve à mon plaisir, à mes passions. Mais c'est ton frère, il est l'enfant de la même mère, la Sainte Église, il a été nourri du même lait, il a droit au même héritage. Ne livre donc pas son âme au démon, elle a coûté tout mon sang. N'importe, je veux qu'elle périsse. Quel langage, Théotime! N'est-ce pas celui de l'enfer? Y a-t-il dans les trésors de la miséricorde divine un pardon pour un tel crime? Oui, mon fils, quelque grand qu'il soit. Il y a un moyen de réparer ce grand mal, et le voici. C'est de donner le bon exemple. Donner bon exemple, c'est instruire par une prédication muette. Mais quelle est éloquente cette prédication, qu'elle est efficace dans son silence. Les païens eux-mêmes l'ont reconnue. La vue d'un homme de bien, dit Sénèque, que dis-je, son souvenir, sa pensée, suffisent à porter à la vertu. Vir bonus aspectus et cogitatus emenda. Le bon exemple d'un compagnon, un mot d'édification sorti de sa bouche, toucheront des cœurs qui ont peut-être résisté à des retraites et à des missions. En montrant le chemin et en y marchant, on l'aplanit par là même à tant de caractères faibles et timides qui seront par là enhardis et fortifiés dans le bien. Le bon exemple est un feu vivifiant qui échauffe tous ceux qui en approchent. Le saint roi. Venceslas allait souvent pendant la nuit d'église en église visiter le Saint-Sacrement, et jamais la rigueur de la saison ne l'empêcha de satisfaire sa piété. Une nuit d'hiver, il avait pris avec lui un gentilhomme de sa cour pour l'accompagner, et malgré le froid le plus piquant, il marchait pieds nus sur la terre hérissée de glaçons, exposé à une bise violente, avec des vêtements aussi légers qu'ils étaient simples, humbles et pauvres. Le gentilhomme, au contraire, avait eu soin de prendre toutes les précautions imaginées dans les contrées du Nord contre les rigueurs de l'hiver et cependant, il ne pouvait résister à la douleur. Le pieux monarque s'en aperçut, touché de compassion, il lui dit de placer le pied sur les traces que ses pas laissaient imprimer dans la neige. Le gentilhomme le fit et bientôt il sentit avec étonnement une douce chaleur se répandre dans tous ses membres. Imitez Saint Venceslas, mon cher Théotime, marchez devant vos frères par vos bons exemples, et en suivant vos vestiges, ils y trouveront une heureuse impression de chaleur qui les animera dans le chemin du ciel. Vous remplirez par là une sorte d'apostolat auquel nous sommes tous obligés. Vous laisserez après vous dans bien des âmes, un héritage précieux de vertu et de mérite qui ira toujours croissant. Comme un autre Xavier, vous trouverez à la porte du paradis des âmes que vous y aurez envoyées et qui augmenteront la gloire de votre entrée triomphante dans les cieux, sans compter celles qui les suivront dans la suite des siècles et vous béniront pendant toute l'éternité pour avoir procuré leur salut ou au moins y avoir contribué par l'édification de votre exemple. Exemple. Monsieur de Kyriolet, si connu par les scandales de sa vie et par la pénitence à laquelle il se condamna pour les réparer, fut une des plus glorieuses conquêtes de la mère des miséricordes. Son cœur, livré au mal dès l'enfance, se roidit contre l'éducation chrétienne que ses parents voulurent lui donner. Plein d'aversion pour leurs leçons et pour eux-mêmes, il demanda à être envoyé à Rennes sous le prétexte d'y faire ses études, mais en effet pour y jouir de sa liberté. Arrivé en cette ville, le jeune de Kyriolet s'associe les écoliers les plus corrompus, fréquente avec eux les spectacles et les lieux de débauche, persécute à outrance les étudiants vertueux, emploie pour se faire des complices tout l'argent qu'il peut dérober. De retour dans sa famille, qui avait poussé l'indulgence jusqu'à payer ses dettes, à mesure qu'il en contractait, il vole dans le secrétaire de son père la somme de 2000 francs. Il fut pris sur le fait. Aussi furieux que confus de se voir découvert, il entreprit un voyage de 600 lieues pour passer chez les Turcs, dans le dessein d'apostasier et de se faire mahométan. Une providence miséricordieuse traversa, parmi l'obstacle, ce sacrilège projet. Après avoir longtemps erré, après avoir versé beaucoup de sang dans les batailles où il se trouva et dans les combats particuliers, le jeune de Kyriolet revint dans son pays, mais ce ne fut que pour être le fléau de la Bretagne par ses querelles et ses violences. Plus ennemi encore de Dieu que des hommes, les menaces du ciel, loin de lui inspirer une frayeur salutaire, ne faisaient qu'irriter son impiété. Un jour, c'est lui-même qui parle, un jour que je revenais de Rennes chez moi, les éclairs étaient si continuels et les coups de tonnerre si terribles que je ne pouvais presque retenir mon cheval. À peine suis-je entré dans ma maison qu'un arbre, frappé de la foudre, tombe derrière moi. Je vomis mille imprécations contre le ciel. Je monte dans ma chambre, je fais apporter mes armes, je charge mes pistolets et ouvrant la fenêtre, je tire contre le ciel, fier de cet attentat comme d'une victoire. Je vais me coucher. Je dormais profondément lorsque tout à coup, le tonnerre éclate dans mes appartements et brûle un des pieds de mon lit. Le pécheur demeura insensible à des marques si frappantes de la patience du Tout-Puissant. Un songe fit sur lui plus d'impression. Dieu le fit descendre tout vivant en enfer par une représentation claire et vive qui dura 5 à 6 heures, sans qu'il lui fût possible d'en détourner la pensée. Il crut voir la place que ses crimes lui préparaient au fond des abîmes. Il fut effrayé, il se frappa la poitrine, il fit pénitence pendant quelques mois et entra même chez les Chartreux. Ses passions n'étaient qu'assoupies, elles se réveillèrent. Bientôt il franchit en secret les murs du cloître et se précipite dans tous les crimes avec plus de fureur que jamais. Il est possédé d'une rage infernale contre tout ce qui appartenait à la religion, contre les sacrements, les offices de l'Église et ses ministres. Il blasphémait quand les pauvres lui demandaient l'aumône pour l'amour de Dieu et la leur donnait quelquefois à condition qu'ils ne prononceraient pas ce saint nom. Cependant, malgré tant d'excès, par un acte d'attachement à la Sainte Vierge qu'il tenait de ses religieux parents, il ne passait aucun jour sans lui adresser une fois la salutation angélique, et sans doute ce fut ce léger hommage rendu à Marie qu'il dut sa conversion. Ses parents l'avaient longtemps sollicité par des prières ferventes. Ils lui avaient fait célébrer, pour ce fils égaré, les saints mystères dans une chapelle consacrée à la Mère de Dieu sous le titre de Notre-Dame de Miséricorde. leurs vœux furent exaucés. En 1636, il vint à London. La curiosité le conduisit dans une église au moment où l'on exorcisait un possédé. Le démon le démêla dans la foule et s'écria par la bouche du possédé « Voilà, mon brave, voilà, mon brave !» Puis lui adressant une parole, il lui dit d'un ton chagrin « Que faites-vous ici? Que ne vous en allez-vous » L'esprit de ténèbres craignait, ce qui arriva bientôt après. Monsieur de Kériolet, étonné, se retira. Le lendemain, il reparut à l'église. L'exorciste demandait alors au démon pourquoi il s'était emparé de cette personne, pourquoi il ne voulait pas la quitter. « Que sais-tu ? » répondit le démon. « C'est peut-être pour la conversion de cet homme. » En disant ces mots, il montrait Monsieur de Kériolet. Celui-ci osa à son tour interroger le démon sur les particularités les plus secrètes de sa vie. Il voulut savoir, entre autres, qui l'avait garanti de la foudre lorsqu'elle tomba sur son lit et quelle était la cause de sa sortie des Chartreux. À la première question, le démon répondit « Sans la Vierge Marie et ton ange gardien, je t'aurais emporté. » À la deuxième question, il répondit « Après s'être fait beaucoup prier. » Que c'était pour certaines fautes honteuses qu'il spécifia et que Dieu n'avait pu souffrir un homme si impur dans une si sainte maison. « Ce fut alors, dit Monsieur de Kériolet, que je commençai à avoir peur, je me sentis tout bouleversé. Il se passait en moi quelque chose d'inexplicable. D'un côté, j'étais pressé de changer de vie et de me confesser sur le champ. De l'autre, j'étais retenu par une mauvaise honte. Que dirait-on de moi si je me confesse, si je me convertis? Enfin, la grâce triompha. Le nouveau pénitent laissa échapper des torrents de larmes et se mit à faire tout haut l'aveu de ses plus énormes péchés. Il en fit ensuite, le même jour, une confession circonstanciée et se trouva changé en un autre homme. Il avait 34 ans lorsqu'il revint à Dieu. Sa conversion fut solide. Il le prouva en se dévouant à une pénitence aussi éclatante que l'avaient été ses scandales. On vit tout à coup cet homme si fier et si brutal adoucir la violence de son caractère, réprimer la fougue de ses passions et se livrer à des austérités effrayantes. Humble et repentant, il prit les livrées de la pauvreté et voyagea en divers pays, offrant partout des exemples bien différents de ceux qu'il avait donnés autrefois. Son château devint un hôpital toujours ouvert à des malheureux, qu'il servait de ses propres mains avec une humilité et une charité incomparables. Il se refusait tout à lui-même. Pendant plusieurs années, il jeûna au pain et à l'eau. Souvent, il passait 2 ou 3 jours sans prendre aucune nourriture. Son habitation était à une lieue de Sainte-Anne, pèlerinage célèbre près d'Auray. Il y allait fréquemment et c'était en se traînant sur ses genoux qu'il remplissait les pieuses pratiques usitées dans ce pèlerinage. En un mot, sa pénitence ne fut égalée que par sa reconnaissance envers Marie. Épuisé de souffrance et d'austérité, il voulut rendre ses derniers soupirs dans la maison des Carmes de Sainte-Anne. Son corps repose au pied du grand autel consacré à la Mère la plus pure des Vierges, de celle que l'Église appelle le refuge des pécheurs, l'espérance des âmes les plus abandonnées. Pratique. Quand vous vous approchez du sacrement de pénitence, examinez-vous sur les péchés dont vous avez pu être cause. « Mon Dieu, disait le saint roi David, purifiez-moi de mes péchés que je ne connais pas et pardonnez à votre serviteur les péchés qu'il a fait commettre.
Merci d'avoir écouté cette lecture. Elle vous est proposée en donation libre et consciente. Pour réaliser votre don, c'est très simple. Rendez-vous sur laetitia.pro/donation. Et si vous avez aimé cette lecture, soyez libre de vous abonner à la chaîne ou simplement de cliquer j'aime ou de la partager. Merci d'avance. Belle journée à vous. Et à bientôt.